Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. Petit stream ce soir après une journée très rock'n'roll du côté de la dissolution et de la préparation des élections législatives du 30 juin prochain. Est-ce que vous allez bien? Force à toi avec la crève. J'ai encore la crève, ça me rend ouf. J'ai mal au crâne. Je vois pas de quoi tu parles. ça a été très rock'n'roll aujourd'hui. On a appris à 13h dans le 13h de TF1 que le président du parti Les Républicains, Éric Ciotti, appelait à la formation d'une alliance avec le Rassemblement National pour les élections. Et c'est une déflagration pour ce camp politique historiquement issu du gaullisme. Historiquement opposé au Rassemblement National, au Front National, à l'extrême droite. C'était la ligne claire du cordon sanitaire qui avait été donné par Jacques Chirac à la fondation du RPR. Éric Ciotti qui donc propose une alliance au Rassemblement National, notamment parce que dans sa circonscription à lui, dans les Alpes-Maritimes, à Nice, il se rend bien compte que l'électorat RN est très largement majoritaire, beaucoup plus que celui des Républicains. Et cette annonce par Éric Ciotti a été suivie d'une implosion du parti Les Républicains. Un grand, grand, grand nombre de responsables des Républicains a dit son dégoût et son rejet de cette idée. Certains Républicains ont annoncé qu'ils quittaient le parti, d'autres ont appelé à la démission d'Éric Ciotti. C'était notamment le cas des sénateurs Les Républicains. Le groupe Les Républicains au Sénat a dénoncé très vertement cette décision d'Éric Ciotti. Éric Ciotti qui semble assez seul, en fait, dans cette histoire. Éric Ciotti qui ne semble pas avoir les moyens de négocier parce que bah, il n'y a pas grand monde qui le soutient. Je crois qu'il y a une députée, il y a le président des Jeunes Républicains. Bon, d'accord. Mais bon, ça fait trois personnes, quoi. Et en face, la levée de bouclier est phénoménale. Gérard Larcher, le président du Sénat, a tweeté son refus de ce scénario. Alors évidemment, le Sénat n'est pas concerné par les élections législatives, donc les sénateurs peuvent pas faire grand-chose. Et puis surtout se pose la question de savoir si Éric Ciotti ne démissionne pas du parti Les Républicains, est-ce que y a moyen de le virer? Et ils sont en train de regarder dans les statuts du parti, mais a priori non. Parce que pour virer le président, bah, il faut organiser de nouvelles élections pour que les adhérents votent. Et d'ici aux législatives, on ne peut pas organiser d'élections. Mais ça repose la question de savoir, est-ce que Éric Ciotti a les moyens de négocier ça? De négocier avec le RN et de trouver des circonscriptions. Si les candidats veulent pas, qu'est-ce qu'il fait? C'est ça le but de l'alliance. D'ailleurs, ce qu'a annoncé Éric Ciotti, c'est que l'alliance entre LR et le RN, ça serait la reconduction des députés sortants. Donc, pas de candidat RN dans les circonscriptions des députés LR sortants. Et éventuellement 30 circonscriptions de plus à aller conquérir. Merci Hugo. Donc voilà. Éric Ciotti qui tente un move, mais qui a priori a plus fait harakiri à son parti qu'autre chose. Il y a combien de députés LR sortants? Une cinquantaine, je crois. Je crois que c'est ça. Ou 60? C'est 60. Ouais, 61. Non, d'ailleurs, je me suis trompé. C'est pas une trentaine de circonscriptions en plus. C'est une soixantaine de circonscriptions en plus. Ça voudrait dire que le RN accepterait de ne pas présenter de candidat RN dans 120 circonscriptions. Dans le même temps, on a appris aussi d'ailleurs que les discussions qui avaient eu lieu hier avec Marion Maréchal-Le Pen avaient finalement échoué. Le Rassemblement National ne souhaite, semble-t-il, pas faire alliance avec Reconquête. Tant que Éric Zemmour est à la tête de Reconquête, c'est pas étonnant pour deux raisons. D'une part, parce qu'Éric Zemmour déteste Marine Le Pen et qu'il l'a dit tout au long de la campagne présidentielle de 2022, qu'il a débauché énormément de responsables du RN, etc. Et la deuxième raison, c'est parce que Reconquête n'est pas une menace pour le RN électoralement. Reconquête, je vous rappelle, ils se sont misérablement plantés aux élections législatives de 2022. Ils ont eu zéro député. Même Éric Zemmour n'a pas réussi à se faire élire. Donc bon. Marine Le Pen n'a pas peur. Et franchement, si Marine Le Pen a le choix entre faire alliance avec le LR et faire alliance avec Reconquête, elle préfère largement LR. LR, eux, ils ont des circos. LR, eux, ils ont une assise territoriale. Merci, Chloulou. Selon toi, Ciotti peut-il se faire virer de LR? Bah, je ne sais pas si Ciotti peut se faire virer de LR d'ici aux élections. Il faudrait organiser un nouveau vote pour que les adhérents LR votent. Ce qui est terrible quand même dans le signal envoyé par Éric Ciotti, c'est quand, enfin, quand bien même Éric Ciotti n'arrive pas à faire une alliance avec le Rassemblement National, il a envoyé le signal que quand on est un électeur LR, on peut voter pour le RN. C'est ça qu'il a fait. Et donc ça va dans le sens du RN. Le RN est très content. Et d'ailleurs, Jordan Bardella s'en est félicité ce soir aux 20h de France 2 que je regardais juste avant de lancer de ce stream. Évidemment, très heureux. Très heureux de ce signal envoyé par par le patron des Républicains. La réaction de tous les cadres du parti envoie un signal inverse. Oui, c'est vrai. Est-ce que les électeurs, ils écoutent les réactions de Laurent Wauquiez et Xavier Bertrand, évidemment, qui dès hier, Xavier Bertrand mettait en garde contre ce scénario-là. Xavier Bertrand, évidemment, Xavier Bertrand, c'est le président LR de la région Hauts-de-France qui a gagné la région face au RN. Il est le symbole du cordon sanitaire, Xavier Bertrand. Donc lui, évidemment, pour lui, c'est évidemment hors de question de faire alliance avec le RN. Dans les cadres de LR, qui soutient cet accord? Pas grand monde. De ce que j'ai compris, il y a une députée et il y a le président des Jeunes Les Républicains. Ça pèse pas lourd. Est-ce que Ciotti peut se faire éjecter? Et si oui, comment? Éric Ciotti peut perdre l'élection législative à Nice si le RN présente quelqu'un face à lui. Est-ce qu'il peut se faire éjecter du parti Les Républicains? Bah, je connais pas les statuts du parti Les Républicains. Je ne sais pas s'il y a des procédures qui sont prévues pour dégager le président en cours. De toute évidence, les délais sont trop courts. Quel que soit le scénario, les délais sont trop courts. Donc non, 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 je pense que Éric Ciotti peut pas se faire dégager des Républicains. Est-ce que pour autant il a les coudées franches pour négocier? Je veux dire, quel candidat il va présenter dans les circos? Notamment dans les circos des députés, a priori il y a plus des deux tiers, voire des trois quarts des députés LR qui ne veulent pas faire alliance avec le RN. Est-ce que ça veut dire qu'il va présenter des candidats RN compatibles face à eux, dans ces circonscriptions-là, qui sont des circonscriptions sortantes? Apparemment, les militants seraient derrière Ciotti. Bah, un des arguments utilisés par Ciotti et par Bardella, c'est de dire que les électorats sont proches. Et ça, c'est une question intéressante. Est-ce que les électorats LR et les électorats RN sont si proches que ça? C'est possible. C'est quoi cette fascination exagérée ou pas des jeunes pour le RN et l'extrême droite? Je vois beaucoup, mais est-ce que c'est juste qu'ils sont plus bruyants? Non, 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 les jeunes, tu sais, dans les élections, c'est très souvent les jeunes suivent les adultes, hein, il n'y a pas de grande disparité dans la répartition des voix, il y a quelques équilibres parfois qui peuvent être différents. Par exemple, il y a une surreprésentation de la France insoumise chez les jeunes, mais le Rassemblement national est arrivé en tête chez les jeunes, comme il est arrivé en tête chez les Français aux élections. La droite tradie a quand même une ligne très gaulliste, donc ça m'étonnerait que beaucoup votent RN. Bah, c'est une bonne question, je ne sais pas. Je ne sais pas. On a quand même vu, Éric Ciotti est un bon symbole de ça aussi, on a bien vu une extrême droitisation des thématiques du rassemblement des Républicains. Grosso merdo, qu'est-ce qui reste chez les Républicains? Il y a quand même beaucoup de gens qui se sont barrés. Qu'est-ce qui reste chez les Républicains? Il reste des gens qui sont plutôt sur les thématiques d'insécurité, d'immigration et de contrôle des dépenses publiques. Les républicains, enfin, les gens de droite qui étaient libéraux, pro-européens, etc., ils ont plutôt rejoint Emmanuel Macron, depuis longtemps, les électeurs en tout cas. Et puis pas que les électeurs, quelques cadres. Donc c'est ce que je disais toujours, c'est que les républicains, ils ont toujours été coincés entre une extrême droite qui se dédiabolise et un macronisme qui se droitise. Ils n'avaient plus d'espace politique. Bon, bah là, ce qu'on vient de voir, c'est une explosion en plein vol de ce qui restait des républicains. Après, attention, hein, les républicains, ils ont une très très forte assise territoriale. Ils ont des régions, ils ont des départements, ils ont des villes, ils ont beaucoup de petites communes. Ça reste un parti très ancré territorialement. Bardella annonce plusieurs dizaines de députés LR soutenus par le RN. Oui, c'est les thématiques de l'accord qui ont été annoncées par Ciotti ce midi. Ciotti parlait de plus d'une centaine de candidats LR soutenus par le RN. À mon avis, ils ont encore besoin de négocier et puis ils ont aussi besoin de se poser la question de qui on présente. Je vous rappelle que le dépôt des candidatures, c'est vendredi. Non, c'est dimanche, c'est pas vendredi, c'est dimanche. C'est vrai, c'est vendredi, c'est la première date qui avait été donnée. Dimanche et lundi, mais le décret est paru, le décret de convocation des électeurs, et le dépôt des candidatures, c'est dimanche. Donc il reste que quelques jours. Y a quand même beaucoup plus d'abstentionnistes chez les jeunes. Ouais, il y a plus d'abstentionnisme chez les jeunes, ouais. Les jeunes s'abstiennent beaucoup. Si le RN gagne et que Jordan Bardella devient Premier ministre, comment va-t-il faire pour assurer son rôle d'eurodéputé et de Premier ministre? Il va démissionner du Parlement européen. Absolument pas besoin de... Il peut s'en moquer, hein. On est d'accord que Macron a annoncé ça pour pas avoir à se baigner dans la Seine le 30 juin? Oui. Oui, ça me paraît être l'explication la plus plausible de cette dissolution, oui, je suis d'accord. Un avis sur Glucksmann qui tente de faire capoter le Front Populaire. Alors, il tente pas de faire capoter le Front Populaire, parce que le Front Populaire, il est en cours de négociation. Hier soir, les partis de gauche ont annoncé un peu vite qu'ils avaient trouvé un accord de principe sur le fait de présenter un candidat par circonscription du Front Populaire. La réalité, c'est qu'en fait, ils sont en train de négocier. Aujourd'hui, il y a eu deux négociations en parallèle du côté du Front Populaire. Il y a eu une négociation sur le programme, sur les propositions, sur le pacte de gouvernement, et une négociation sur les circonscriptions. Le fait est que le Front Populaire va être une mise à jour de la NUPES sur la base des scores des élections européennes, des nouveaux rapports de force à gauche. Mais à mon avis, ça va être plus que symbolique. Mais Glucksmann ne fait rêver que les macronistes de gauche. Glucksmann est arrivé en tête des formations politiques de gauche des élections européennes. Il a fait 14%. Il a dissous l'Assemblée pour ne pas être dissous dans la Seine, oui. Tu peux nous dire si le recours au Conseil constitutionnel peut faire quelque chose? J'ai pas entendu parler d'un recours au Conseil constitutionnel. Contre quoi? Contre le décret de dissolution? Contre la dissolution? Non, elle est constitutionnelle, la dissolution. Contre la date des élections? C'est constitutionnel, hein. L'article 12 de la Constitution prévoit que le président de la République peut organiser des élections entre 20 et 40 jours, je crois. Là, c'est il a choisi 20, mais c'est con, c'est. Tu viens de nous dire que tu crois pas à une vraie union de la gauche? Ah si, 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 moi je pense qu'ils vont réussir à se mettre d'accord, hein. Ils ont intérêt. Ils ont totalement intérêt. La gauche n'a ni place publique, ni le PS, ni la France Insoumise n'a intérêt à ce qu'il n'y ait pas d'union. Donc ils vont se mettre d'accord, hein. Contre la fermeture des inscriptions sur les listes électorales. J'en sais rien, je connais plus le code électoral sur le bout des doigts. Bah on verra, hein, si le Conseil constitutionnel se prononce en référé. LR aurait pas été plus gagnant de surfer sur une vague anti-FN, anti-Macron, plutôt que de s'allier au FN. Alors, cette ligne-là dont tu parles, c'est la ligne des LR depuis 10 ans. Ni Macron, ni Le Pen. Force est de constater que cette ligne n'a pas fait les affaires des Républicains dans les urnes. Ils n'ont pas réussi à faire des scores. Ils n'ont pas réussi, Éric Ciotti, les Républicains, hein, n'ont pas réussi à faire renaître une droite conservatrice non alignée sur Macron et non alignée sur Le Pen. J'ai l'impression qu'Éric Ciotti acte ça et dit, bon, bah, la nouvelle phase qui doit s'ouvrir, c'est une alliance, c'est d'être une force, être un point d'appui pour un gouvernement Rassemblement National. Il y a eu un communiqué pour l'Union, c'est acté sur le principe. Sur le principe, ouais. Sur le principe. Maintenant, il faut qu'il se présente dans les circonscriptions. Zemmour s'était lancé en politique en pariant sur le fait de faire l'union de la droite LR-RN. Quelle place pour lui maintenant? À mon avis, Éric Zemmour est condamné à être un spectateur d'un RN tout-puissant. Je vous le redis, Reconquête ne fait pas peur au RN électoralement. Ils ont fait péniblement 5% aux européennes, ils avaient fait péniblement 7% à la présidentielle, ils ont gagné zéro député alors qu'ils avaient présenté des candidats dans plein de circonscriptions. Qui dans la gauche est contre l'union? Personne n'est contre l'union. En l'état actuel des choses, personne n'est contre l'union. Tout le monde souhaite une union, mais ils sont en train de la préparer, ils sont en train de la travailler. Une union, il ne s'agit pas juste de dire et de pondre un communiqué de presse pour dire on s'unit pour qu'elle existe. L'union, elle doit avoir lieu dans les circonscriptions. L'union, elle doit avoir lieu dans le programme, dans la politique qui sera menée si d'aventure le Front populaire arrivait en tête, enfin en majoritaire, aux élections. Il y a 577 candidats à présenter, ça prend du temps. Alors, ce que sont en train de faire les partis du Front Populaire, là, c'est qu'ils sont en train de regarder la carte de France des circonscriptions, ils sont en train de faire le tri. Il y a déjà tous les députés sortants, ceux qui sont déjà élus, qui sont déjà membres de la NUPES. Bon, bah, eux, on les reconduit. Eux, c'est bon. On discute pas. Eux, c'est bon, ils ont gagné leur circonscription, ils sont un nouveau candidat, et on fait tout pour qu'ils soient réélus. Et puis, dans les autres circonscriptions, on regarde qui a gagné, enfin, on regarde les dynamiques électorales. On regarde les électorats et on voit qui on peut présenter d'intéressant. Tiens, dans telle circonscription, visiblement, Glucksmann a fait un bon score. Vaut mieux qu'on mette un socialiste, il a le plus de chances de gagner. Par contre, dans telle autre circonscription, c'est Mélenchon qui a cartonné. Allez, on met un insoumis. Et là, on va mettre un communiste. Et là, on va mettre un écolo. Et ils se mettent d'accord de manière à ce que, au bout du bout, quand ils font les comptes, ils ont un bon nombre de circonscriptions gagnables qui leur permet d'avoir des équilibres. C'est exactement ce qu'ils avaient fait pour la NUPES. Hein. C'est exactement ce qu'ils avaient fait pour la NUPES. Pas très compliqué. Et c'est pas si compliqué que ça parce que les partis politiques connaissent très bien les cartes électorales, parce que les députés sortants connaissent très bien les circonscriptions, parce qu'on connaît les circonscriptions d'à côté, parce qu'en 2022, on avait présenté déjà des gens, qu'ils avaient fait des scores. Alors on regarde les scores qu'avaient fait les gens présentés par la NUPES en 2022. Et par exemple, s'il y avait un écolo qui avait été mis dans une circonscription et qui s'était pris une bâche, mais monumentale, on se dit, bon, on va peut-être pas le remettre celui-là, parce que visiblement ça marche pas. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Tiens, peut-être un insoumis, ça peut mieux marcher. On regarde les scores, on regarde les bureaux de vote, on regarde les élections. On dit, bon, oui, effectivement, les insoumis, ça peut marcher. Ok, on met un insoumis dans cette circo. Alors là, les écolos, ils disent, ah, mais nous, du coup, on perd un député, il nous en faut un ailleurs. Ok, on va regarder dans une autre circonscription si on peut mettre plutôt un écolo qui peut faire un bon score. Voilà, c'est comme ça qu'ils font. C'est quoi la différence entre Front Populaire et NUPES au final? C'est pas très différent. C'est les mêmes partis. C'est les mêmes partis qui s'allient. La différence, c'est qu'entre les deux, il y a eu les élections européennes, que les élections européennes ont donné des scores et que ces scores ont donné un boost à Raphaël Glucksmann et au Parti socialiste, qui donc essaye de pousser un petit peu plus. Donc il est possible que par rapport à l'accord de la NUPES, l'accord du Front populaire soit un peu plus socialiste favorable, de manière à prendre en compte la poussée dans les urnes menée par Raphaël Glucksmann. Il y a aussi d'autres partis politiques. Dans le Front populaire, non. En l'état actuel des choses, insoumis, communistes, écolos, socialistes, génération. Ah non, le NPA, ils sont pas dans l'Union populaire. Ils sont pas dans le Front populaire. Ils ont demandé à y être. Ah, il y a Place Publique aussi. Ah bah oui, remarque logique. Oui, bah oui. Oui, non, mais parce que pour moi, Place Publique et PS, c'est la même chose. Mais Place Publique, ils vont pas avoir un groupe à l'Assemblée nationale. C'est pour ça, en fait, moi, je réfléchis pas en termes de parti politique. Je réfléchis en termes de groupe à l'Assemblée nationale. Place Publique, ils vont pas faire un groupe. Ils vont siéger avec les socialistes. Si le RN arrive en tête à Matignon, ils auront vraiment les moyens de mener des mesures. Ah bah, si le Rassemblement national arrive à avoir une majorité de députés à l'Assemblée nationale, ils auront le gouvernement du pays. Donc oui, ils mèneront leurs mesures, ils appliqueront leur programme. D'où il sort ce parti Place Publique? J'en ai jamais entendu parler avant ces élections. Et bah Place Publique, c'est un parti qui est né en 2019, créé par Raphaël Glucksmann et d'autres, pour les élections européennes. Voilà. Mais ils n'ont présenté des candidats que aux européennes en 2019. Ils n'ont pas présenté de candidat à la présidentielle. Ils soutenaient Anne Hidalgo. Ils n'ont pas présenté de candidat à la députation. C'est un parti qui est très 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 identifié à Glucksmann, donc aux élections européennes. Le RN peut-il demander la démission de Macron s'il gagne ces élections? Je réfléchis parce que j'ai du mal à voir un parti qui remporte les élections législatives et qui arrive donc à Matignon réclamer la démission du président de la République. Je pense qu'ils le souhaiteront, mais je pense pas qu'ils le demanderont. Sinon, t'imagines la cohabitation? Le Pen qui envoie Bardella comme Premier ministre, est-ce que c'est afin qu'il prenne des coups pendant 2 ans, se ridiculise et comme ça, elle en 2027 revient en force comme sauveuse de son parti? Non, 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 pas du tout. Non, 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 Marine Le Pen et Jordan Bardella sont très clairs, hein. Ils ont toujours dit que Bardella avait vocation à être Premier ministre et que Marine Le Pen avait vocation à être présidente de la République. Alliance PS Place Publique avec le parti macroniste? Non. Non, non. Non, non, le PS, ils sont définitivement dans l'opposition, ils l'ont dit, ils le répètent à l'Assemblée. Non, non. Si Macron démissionne, est-ce que l'Assemblée se fait encore dessouder? Non. Le PS en a pas marre de Glucksmann? Ben non, ils viennent de gagner des élections là. Glucksmann, c'est un formidable atout pour le PS, au contraire. Ils viennent d'arriver en tête des forces de gauche. Donc ça renforce la position de Glucksmann au PS. Même si c'est pas le même parti. Est-ce que Macron peut saboter la gouvernance du RN? Non, il ne peut pas empêcher le RN de mettre en œuvre son programme. Tout ce qu'il peut faire, c'est saisir le Conseil constitutionnel sur les lois avant promulgation, si c'est pas déjà fait par les parlementaires. Faut bien comprendre qu'une cohabitation, c'est le Premier ministre qui dirige le pays, hein. C'est plus le président de la République. Macron a très très peu de pouvoir si c'est Bardella qui est à Matignon. Quel est le délai entre deux dissolutions? C'est 1 an. Dans le cadre d'une cohabitation, quelles sont encore les marges de manœuvre du président de la République? Très peu. Très peu. Il a un pouvoir de nomination, qu'il avait déjà. Il ne peut pas impulser des politiques publiques, il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale pour le soutenir. Je te dis, il peut saisir le Conseil constitutionnel. On peut pas faire grand-chose, hein. Déjeune tous les lundis avec le Premier ministre. Il gère l'international, oui, c'est vrai, il gère les relations diplomatiques, il gère l'armée. Ça fait pas une politique, hein. J'ai entendu parler hier, c'est quoi au juste l'article 16 de la Constitution? L'article 16, c'est les pouvoirs exceptionnels. C'est un article qui remonte au contexte de la guerre d'Algérie, où le président de la République a tous les pouvoirs dans un contexte de crise, disons, militaire, gravissime. En gros, si le pays est envahi, quoi. On va dire ça comme ça. Que penses-tu de Macron qui démissionne prématurément? Alors c'est possible, si le Rassemblement national remporte les élections législatives, Emmanuel Macron pourra présenter sa démission. C'est possible. Il a dit qu'il démissionnera pas. Alors Emmanuel Macron a dit qu'il ferait une conférence de presse demain. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne demain après-midi pour suivre ensemble la conférence de presse d'Emmanuel Macron qui a l'intention de s'impliquer dans cette campagne législative. Donc on va écouter ce qu'il a à nous dire. Déjà, j'ai envie qu'il justifie sa dissolution, ça m'intéresse. Si Macron démissionne, il a le droit de se présenter en 2027? Non. Macron peut ne pas choisir Bardella, il en a le droit. Mais il n'en a pas le pouvoir. Il est obligé de choisir Bardella si Bardella remporte les élections. Ce qu'il faut comprendre, c'est. En fait, c'est une logique politique. C'est pas parce que c'est écrit dans des textes de loi ou quoi que ce soit. Un Premier ministre, c'est quelqu'un qui est à la tête d'une majorité de députés à l'Assemblée nationale. Un Premier ministre, ça mène une politique publique. Une politique sous le contrôle de l'Assemblée nationale. Je rappelle que l'Assemblée nationale contrôle l'action du gouvernement. C'est eux qui votent les lois, proposées par le gouvernement, par exemple. Si Macron nomme un Premier ministre qui n'a pas de majorité, le Premier ministre, il va à l'Assemblée, donc il dit bonjour mesdames et messieurs les députés, qui est avec moi? Il y a une minorité de main qui se lève, qui est contre moi? Il y a une majorité de main qui se lève, il dégage. Retour au point de départ. Le président doit nommer un nouveau Premier ministre. Donc, c'est logique qu'on n'arrive pas à cet extrême-là et qu'on choisisse le chef du parti arrivé en tête aux élections législatives. Le seul à même de réunir une majorité de députés. Même en cas de majorité relative. Alors c'est ce qu'on a vu avec Elisabeth Borne. Elisabeth Borne nous a montré qu'il était possible de gouverner le pays, difficilement, sans avoir de majorité absolue. Mais Elisabeth Borne, elle avait quelque chose, c'est qu'elle n'avait pas de majorité contre elle. C'est-à-dire que certes, elle n'avait pas de majorité, mais personne n'en avait. Merci Lisuda pour les subs offerts, merci beaucoup. Elisabeth Borne a échappé à plein de motions de censure. Motion de censure, c'est l'inverse du vote de défiance. De confiance. Vous avez compris. Vote de défiance, vote de confiance. Vote de confiance, c'est qui est avec moi. Vote de défiance, c'est qui est contre moi. Elle avait le 49-3. Bien sûr qu'elle avait le 49-3, justement, c'est ce que je vous explique. C'est que le 49-3 donne naissance à une motion de censure. Donc à un vote de défiance. Et comme les votes de défiance ne marchaient pas, Elisabeth Borne restait première ministre. Dans une position inconfortable, mais quand même. Donc c'est une obligation politique qui est faite au chef de l'État, au président de la République, de nommer Premier ministre le chef de la majorité des députés, quelle que soit cette majorité. Et je le redis, Jacques Chirac a été obligé de nommer Lionel Jospin Premier ministre. Il venait de le battre à plate couture au présidentiel. 2 ans plus tard, il a été obligé de le nommer Premier ministre, parce que la gauche a gagné. Situation inverse en 86, Mitterrand a été obligé de nommer Jacques Chirac Premier ministre, parce que Jacques Chirac était le chef de la majorité des députés qui venaient de gagner l'élection. Le chef du parti RN, c'est pas Marine Le Pen. A priori, le chef choisi par le RN pour le poste de Premier ministre, c'est Jordan Bardella. C'est eux qui décident, en fait. C'est le RN qui décide de qui ils envoient. Et Bardella, c'est le président du RN, par ailleurs, ouais. Pourquoi Ciotti annonce une alliance avec le RN alors que personne ne le veut chez les LR ? Bah, c'est une bonne question. C'est effectivement ce qui s'est passé, le psychodrame qui a commencé cet après-midi. Éric Ciotti annonce une alliance. En tout cas, il annonce sa volonté de conclure une alliance avec le RN. Après avoir rencontré le RN, pour ces élections législatives, Éric Ciotti souhaite sauver les meubles et se garantir une centaine de circonscriptions, dont au moins une soixantaine gagnables. Le problème, c'est qu'en faisant ça, il livre le parti Les Républicains, héritier du gaullisme, à Marine Le Pen, héritière de la collaboration. Ce qui ne va pas de soi dans l'histoire de la droite. Et ce qui a été vertement rappelé à Éric Ciotti par un certain nombre de responsables républicains qui en veulent beaucoup à Éric Ciotti d'avoir fait ce move-là. Je pense qu'on tend vers 2 gros blocs, un peu comme aux US, tu en penses quoi ? Non, la France et les États-Unis, c'est pas le même fonctionnement, c'est pas le même mode de scrutin, c'est pas la même démocratie, ça fonctionne pas de la même manière, il y a un pluralisme politique en France, historiquement. Ce qu'on peut avoir en revanche à l'Assemblée nationale, moi je pense que ce qu'on va avoir à l'Assemblée nationale à l'issue de ces élections législatives le 30 juin, c'est deux blocs extrêmement forts, un bloc plus faible. Les deux blocs extrêmement forts, ce sont le RN d'un côté et le Front Populaire de l'autre. Et le bloc le plus faible, à mon avis, ce sera celui d'Emmanuel Macron. Je pense qu'Emmanuel Macron va avoir énormément de mal à faire élire des députés dans les circonscriptions. Surtout avec son impopularité. Donc... Et après, ça va se jouer circonscription par circonscription. C'est pas une démocratie, les USA? Si. Si, si. Mais un autre genre. Nos modes de scrutin nous obligent à n'avoir que des gros blocs pour être efficaces. Exactement. La Ve République a été bâtie par le général de Gaulle justement sur la logique du scrutin majoritaire par circonscription pour les élections législatives, de manière à garantir des blocs et de la clarté politique à l'Assemblée nationale, pour éviter l'éparpillement de la 4ème République, où il y avait plein de petits partis, c'était le bordel, et des coalitions en permanence et tout. Ce que voulait de Gaulle, et ce qu'il a eu, ça fait 70 ans qu'on a ça, c'est des grands partis qui, quand ils sont majoritaires, ils sont franchement majoritaires. Il n'y a eu que deux exceptions à ça. C'était 88, avec la majorité relative de Rocard, et 2022, avec la majorité relative d'Élisabeth Borne, puis de Gabriel Attal. Mais à part ça, dans toute l'histoire de la Ve, la majorité, elle était putain de majoritaire. À l'époque où l'UMP était majoritaire, ils avaient une putain de majorité. Elle était solide, elle était franche, il y avait un chef, on savait qui c'était, ils avaient une ligne politique claire, etc. Même Hollande et les frondeurs? Oui, parce que les frondeurs, contrairement à ce qu'on raconte, les frondeurs n'ont pas fait tant de dégâts que ça. Hein. Ils n'ont jamais voté la défiance. Ils n'ont jamais quitté le groupe PS. Ils n'étaient pas si menaçants que ça, les frondeurs. Ils cassaient les couilles de Manuel Valls, c'est sûr, mais ils n'étaient pas très dangereux. Est-ce que c'est une bonne idée stratégiquement pour LR au vu de ses résultats? Bah t'as deux manières de voir les choses, hein. Soit tu dis qu'effectivement Éric Ciotti fait un calcul pour sauver les Républicains, parce qu'il n'y a que ça à faire. Soit tu dis que sauver les Républicains, c'est sauver son âme, ses principes et ses valeurs, et refuser de faire alliance avec le RN. Voilà, ça dépend ce qu'on appelle sauver les républicains. J'ai envie de contrer le RN, mais voter LFI, ça me fait mal. Que dois-je faire selon toi? Eh bah, ben, tu peux attendre de savoir quel sera le candidat ou la candidate qui sera dans ta circonscription du Front Populaire. Ce sera peut-être pas un LFI. Ce sera peut-être un écolo, ce sera peut-être un communiste, ce sera peut-être un socialiste. Auquel cas tu pourras voter pour elle ou lui, en te disant que dans les autres circonscriptions, les électeurs qui ont envie de contrer le RN mais qui n'ont pas envie de voter Glucksmann feront la même logique que toi et voteront pour les candidats proches de Glucksmann, mais membres du Front Populaire. C'est ça le principe de l'union. C'est que les électeurs socialistes votent LFI dans les circonscriptions où LFI présente des candidats, et que les électeurs insoumis votent pour des candidats socialistes dans les circonscriptions où les socialistes présentent des candidats. Est-ce que Attal n'est officiellement plus Premier ministre? Si, 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 il l'est toujours. Il n'y a pas eu de remaniement. Il n'y a pas eu de remaniement du gouvernement, le gouvernement continue à gouverner, il n'y a plus d'assemblée, donc il ne peut plus faire passer de loi. Ça viendra plus tard. Tu penses que ça sera pas les mêmes candidats que les dernières législatives? Je pense que dans la plupart des circonscriptions, ce seront les mêmes candidats que lors des dernières législatives. Ciotti a consulté quelqu'un chez LR avant d'annoncer son alliance ou il l'a fait tout seul? A priori, il l'a fait tout seul. De ce qu'on en sait aujourd'hui, c'est un move qu'il a fait tout seul. Est-ce que Glucksmann va vraiment rester dans le Front Populaire? Glucksmann n'est pas candidat aux élections législatives. Glucksmann n'est pas candidat au poste de Premier ministre. Glucksmann n'est pas le chef du Parti socialiste. Glucksmann est un député européen. Donc la question ne se pose pas. Adrien Quatennens, oui, c'est vrai qu'Adrien Quatennens sera peut-être candidat. De manière concrète, on risque quoi si le RN passe en majorité? Ils feront rien comme les autres. C'est ta manière de voir les choses, si tu trouves que Macron n'a rien fait. C'est quoi une circonscription? Une circonscription, c'est une zone géographique qui détermine un bassin d'électeurs avec des bureaux de vote dedans. Et il y a un député par circonscription qui est élu. Voilà, c'est tout. Les circonscriptions sont plus ou moins grandes géographiquement, mais ça dépend de la quantité de population. Dans les zones très rurales, les circonscriptions sont très grandes avec plein de villages. Dans les zones urbaines, comme à Paris par exemple, les circonscriptions sont petites, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Quand seront révélés les candidats? Dimanche. Est-ce que tu penses que ce move de Manu était prévu au last minute? C'est une bonne question. En vrai, c'est une bonne question. Moi, je n'arrive pas à sonder l'âme d'Emmanuel Macron. Je pense que c'était prévu. Je pense qu'il y a travaillé, qu'il y a réfléchi. Mais il n'en a prévenu personne. Enfin, y a pas eu de... Il n'y a pas eu de signe avant-coureur. On en aurait entendu parler. Des journalistes, des proches du président, des visiteurs du soir, etc. auraient fait fuiter la possibilité. Et là, non. Que font les députés à l'Assemblée pendant la dissolution chômage technique? Ouais, ils doivent vider leurs bureaux, prendre leurs cartons et vider les bureaux. C'est la fin de leur mandat. Le mandat des députés a pris fin par le décret de dissolution. C'est la fin du mandat des députés. Donc ils rentrent chez leur maire et ils préparent leur campagne parce qu'a priori, ils sont nombreux à être candidats à leur propre succession. Est-ce que les présidents des chambres ont été consultés? Oui, la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ont été consultés par Emmanuel Macron formellement, puisque c'est obligé dans la Constitution. Ça veut juste dire qu'il a passé un coup de fil, hein. Ça peut être tranché en un quart d'heure. Est-ce que tu penses que Manuel Valls va largement gagner les élections avec un nouveau parti créé en secret? Non. Les attachés parlementaires qui sont libérés soudainement. Ah bah tu rigoles, mais les attachés parlementaires, leur contrat de travail a pris fin. C'est écrit dans le contrat de travail des collaborateurs de députés. Ils sont attachés au mandat du député. Donc le contrat de travail a pour terme le terme du mandat. Donc si t'as un décret de dissolution qui tombe, fin de ton contrat de travail, chômage. Combien de personnes ont perdu leur boulot? Les collaborateurs de députés, bah il y en a deux ou trois par député. Je te laisse faire le calcul. Sachant qu'il y a 577 députés. J'ai raté quoi? Il s'est passé des trucs à droite? Oui, il s'est passé des trucs à droite cet après-midi. Ce midi, Éric Ciotti, le président des Républicains, a annoncé sa volonté de faire une alliance électorale avec le Rassemblement national pour les élections législatives. Ce qui a surpris énormément de membres du groupe, du parti, les Républicains, notamment des élus, des responsables, qui ont été très nombreux à dénoncer cette décision d'Éric Ciotti. On a entendu Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, on a entendu. Merde, le président de les régions Hauts-de-France dont je parlais tout à l'heure. On a entendu l'ensemble des sénateurs, les Républicains, Gérard Larcher, le président du Sénat, Xavier Bertrand, effectivement, président des régions Hauts-de-France, merci. Plusieurs dizaines de députés, des porte-paroles, des vice-présidents du parti, bref, beaucoup de responsables des Républicains ont dit leur rejet de ce scénario d'alliance avec le RN. Bruno Retailleau, oui, le président du groupe Les Républicains au Sénat, qui a parlé d'une trahison. Les mots ont été très très forts. Sandrine Rousseau aussi, qu'on a entendu, oui. Apparemment, Ciotti a quand même la moitié des militants LR derrière lui. Ah ouais, la moitié des sympathisants, des militants LR sont d'accord pour une alliance avec le RN. Et bah c'est la fin. C'est la fin de ce parti. C'est la fin de la droite républicaine. Qui est née en 1944 et qui est morte en 2024. En vrai, c'est triste, hein. C'est un parti structurant de la vie politique française, la droite républicaine, les gaullistes, le camp gaulliste, historiquement. Ils ont été à l'Élysée plusieurs fois, ils ont été à Matignon plusieurs fois, ils ont été dans l'opposition plusieurs fois, mais ça a toujours été un grand groupe, un groupe très structuré, très organisé. Le PS aussi, ils sont en fin de vie. Non, le PS, ils vont bien. Hein. Je vous rappelle que le PS est sorti renforcé des élections dimanche dernier. Hein. Le PS, ils vont bien. Hein. C'est un parti qui va bien, le PS. Qui renforce sa posture et sa position. Malgré Glucksmann, grâce à Glucksmann. Je comprends pas pourquoi l'Union populaire ne se fait pas autour de Michel Rocard, il a tout ce qu'il faut. Ouais, on disait ça en 88. On disait ça. Jean-Luc Mélenchon disait ça. En 88. Le gouvernement peut-il poursuivre la réforme de l'assurance chômage dans ce contexte? Non, la réforme de l'assurance chômage est suspendue. Il n'y a plus d'Assemblée nationale, les gars. Il n'y a plus de projet de loi. Tous les projets de loi qui étaient en cours sont annulés. Ah non, oui, c'était par décret. Vous avez raison. Ah non, vous avez raison, c'était par décret. Bah ils sont probablement en train. Est-ce que c'est. Je suppose que c'est suspendu aussi. Je ne vois pas le gouvernement prendre cette mesure pendant la campagne. La loi fin de vie, c'est foutu. Ouais. La loi fin de vie est arrêtée, ouais. RIP, c'est le cas de le dire, ouais. Ils ont dit qu'ils continuaient. Qui a dit ça? Oh, regardez, il y a un chat qui passe derrière moi. C'est rarissime hein, qu'elle vienne dans cette pièce. Ça va, mon petit chat? Elle est partie. Ah non, excusez-moi, donc du coup, j'ai confondu. J'ai confondu la loi sur la fin de vie avec le décret sur l'assurance chômage. Est-ce que c'est plus rare qu'une dissolution à l'Assemblée? Oui. Elle vient que pour les grands événements politiques. Il parle encore tout seul, cet humain. Est-ce que les ex-députés de la NUPES sont futurs candidats uniques du nouveau Front Populaire? Oui. Oui. Ça, clairement. Ça fait partie du deal. Les députés élus de la NUPES sont reconduits. On ne va pas présenter de nouveaux candidats contre un député qui est déjà élu, qui a gagné sa circonscription. Non, on va le soutenir. Même Quatennens, je ne sais pas. Peut-être que ça fait l'objet des discussions actuellement. Peut-être que ça fait l'objet des discussions. En ce moment, il y a des négociations entre les partis du Front Populaire pour savoir qui y présente dans quelle circonscription. Il y a eu des discussions avec le NPA. Je ne sais pas, je ne pense pas. On va pas se mentir, le NPA n'est pas une force électorale. Donc, il n'y a pas à négocier avec le NPA. Il n'y a pas besoin de négocier avec le NPA. C'est exactement comme le RN avec Reconquête. C'est pas une menace. Mais le NPA soutient le Front Populaire. Oui, le NPA a annoncé qu'il soutenait le Front Populaire, oui. Oui. Mais ils vont pas avoir de circo, hein. De la même manière que le NPA avait annoncé soutenir la liste menée par Manon Aubry à la présidente, aux européennes, mais ils ont eu aucun candidat sur la liste, hein. Il n'y a pas eu d'alliance de parti. Est-ce qu'il s'est exprimé aujourd'hui, Macron? Non, Macron s'exprime demain. Demain, Emmanuel Macron donne une conférence de presse. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, il voulait se préparer, regarder mon stream et préparer du coup ce qu'il allait dire demain pour sa conférence de presse. Il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui, les négociations, les tractations, les républicains, tout ça. Lâcheté sub, Manu, j'avoue. Quelle heure pour cette conférence? Je n'ai pas l'heure, je n'ai pas l'horaire. Elle sera peut-être communiquée demain matin. Ils sont en train d'essayer de l'organiser. C'est a priori une conférence de presse qui n'aura pas lieu à l'Élysée, mais ailleurs. Donc ils sont en train d'organiser tout ça. Bref, je ne sais pas. Onze heures? Ah, ça m'arrange pas du tout, moi, 11 heures. Ah non, mais moi, 11 h, j'ai la conférence de rédaction de Baxit. Faut que j'envoie un texto à Macron pour dire que ça m'arrange pas. Vous êtes sûr de votre horaire là? Ouais, c'est confirmé. Ah non, 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 attends, c'est hyper compliqué de trouver un horaire pour la réunion où tout le monde est où tout le monde est dispo, Usul, Léa, Sacha, Antoine. Ça va, la période est chill en plus, ouais. Je trouve pas d'infos sur l'horaire. Ok. Si Macron démissionne après les résultats de juillet, le prochain président pourra-t-il refaire une dissolution? Oui. Mais peut-être qu'il devra respecter le délai d'un an après la dernière dissolution. Bon, c'est pas grave, demain je ferai un stream en décalé. S'il y a Clément Viktorovitch qui vous stream la conférence de presse en direct, très bien. Je ferai un stream plus tard. Si Macron démissionne, peut-il se présenter en 2027? Non. Il y a une espèce de légende urbaine qui circule sur Internet qui raconte que le président n'a pas le droit de faire plus de deux mandats successifs. Ça, c'est écrit dans la Constitution. Mais s'il démissionne, alors ça lui ouvre le droit à un troisième mandat successif. Voilà. Cette légende est fausse. C'est faux. Ce n'est pas vrai. C'est sorti du cerveau étriqué de quelques personnes, dont Jean-Jacques Urvoas, ancien garde des Sceaux, sur une interprétation ultra-extensive d'un arrêt de la du Conseil d'État. Mais les professeurs de droit public qui se sont prononcés sur le sujet ont tous dit que non, un mandat écourté par une démission reste un mandat. Et on ne peut pas enchaîner les mandats comme ça, il suffit pas de démissionner pour pouvoir automatiquement avoir droit à un troisième mandat, ça ne marche pas comme ça. Par contre, il peut revenir dans 5 ans. Oui, il peut revenir dans 5 ans. Emmanuel Macron n'a pas le droit de se présenter en 2027, il a en revanche le droit de se présenter en 2032. Ce qui sera donc hypothétiquement un troisième mandat, mais pas successif. Et si son successeur démissionne au bout de 2 semaines, est-ce qu'il pourra se représenter? Ouais. Techniquement, ce sera un mandat de 2 semaines. Il peut faire une poutine et passer par la case Premier ministre. Oui, il peut. Si il a une majorité de députés à l'Assemblée nationale, vous avez compris ça. Je me tue à vous le dire. Vous avez bien compris. Pour être Premier ministre, il faut avoir une majorité. Maintenant, la haine restera en décalage par rapport au mandat présidentiel. Non. Non, parce que le président de la République qui sera élu en 2027 pourra tout à fait dissoudre dès son élection. Ce qu'a fait François Mitterrand en 81, par exemple. En 1981, le président de la République, c'est Valéry Giscard d'Estaing. La majorité des députés sont de droite. Mitterrand est élu président de la République. Premier truc qu'il fait, il dissout l'Assemblée, évidemment. Mais c'est logique, enfin, c'est même pas méchant en fait, c'est cohérent. C'est de dire, les Français viennent de s'exprimer, viennent de faire un choix clair en faveur d'une nouvelle ligne politique, je dissous donc l'Assemblée nationale de manière à ce que les Français puissent confirmer cette volonté en élisant une majorité de députés qui soutiennent cette nouvelle voie politique. Voilà. C'est ce qu'ont fait les Français, ils ont voté pour des députés de gauche. En 1988 aussi. 1988, nouvelle élection présidentielle, Mitterrand est réélu président de la République, il dissout. Parce qu'entre-temps, l'Assemblée était repassée à droite. Et donc, de nouveau, il dit, je veux une majorité qui me soutienne, et il l'obtient presque. T'as une idée de combien ça coûte d'organiser des législatives? Non, je sais pas. Je sais pas comment ça coûte d'organiser des élections. C'est essentiellement les mairies hein, qui soutiennent l'effort avec l'ouverture et la tenue des bureaux de vote. Mais bon, c'est une dépense qui me paraît légitime. La démocratie, ça a un coût. C'est très bien. Je travaille en mairie, c'est un enfer. Oui, ça m'étonne pas. Courage. Que pourrait-il faire avec l'article 16 de la Constitution? Il pourrait faire tout ce qu'il veut avec l'article 16 de la Constitution, c'est le principe de cet article. Mais il faudrait que les conditions soient remplies, et elles ne le sont pas. Dans le cas où il n'y a pas de majorité, qui sera le Premier ministre? Ah, ça c'est une très bonne question. Question qui risque de se poser le 7 juillet prochain, si on n'a pas de majorité absolue. Qui gouvernera le pays? Qui sera à même de faire une coalition de députés? Par-delà les partis. Ben on verra. On verra. Sans majorité relative, il se passe quoi aussi? Ben justement, c'est ce que je suis en train de dire. Ça existe en France des gouvernements minoritaires? Ouais, bah on a eu, comme je le disais, on a eu Michel Rocard, Elisabeth Borne, Gabriel Attal, qui sont trois premiers ministres qui n'avaient pas de majorité absolue, qui n'avaient qu'une majorité relative. Alors, Michel Rocard, on va le mettre de côté parce que c'était les années 80, c'était un autre mode de fonctionnement et c'est entre-temps il y a eu le quinquennat et tout. Enfin bref, on a changé la constitution, mais Elisabeth Borne et Gabriel Attal, on les a vus à l'œuvre. C'est pas confortable de pas avoir de majorité. C'est dur de gouverner. Il y a des motions de censure qui sont à deux doigts de passer, mais qui passent pas. Mais ça n'empêche pas de prendre des décisions et de faire passer des lois. Donc, il y a le 49-3 par exemple qui peut aider. 49-3 est un outil assez utile dans ces cas-là, mais le 49-3, c'est à double tranchant, je vous rappelle, hein. 49-3, c'est vous vous mettez à la merci d'une motion de censure. Le gouvernement Valls avait techniquement pas la majorité absolue à la fin, il manquait un ou deux sièges. Non, mais ça se négociait en permanence. Si tu prenais numériquement le nombre de députés socialistes, ça fonctionnait. Mais effectivement, t'as raison, il y avait les frondeurs, qui votaient pas toujours contre, qui s'abstenaient. Ça aidait. Une motion de censure qui passe, ça fait quoi exactement? Ça renvoie le gouvernement. Ça renvoie le gouvernement est dissous. Dans le cadre de cette dissolution, les nouveaux députés qui seront élus que pour 3 ans ou 5 ans, merci à toi. En fait, j'en sais rien, ça dépendra de la décision du futur président de la République en 2027. C'est quoi la différence entre une dissolution ou une motion de censure? Alors, une dissolution, c'est une dissolution de l'Assemblée nationale, qui est renvoyée, donc on organise de nouvelles élections. Une motion de censure, c'est juste le gouvernement qui est renvoyé. Alors, une motion de censure, pardon, peut donner naissance à une dissolution, si le président de la République n'arrive pas à trouver de majorité. Est-ce que les ministres renvoyés par une motion de censure peuvent être de nouveaux ministres ensuite? Oui, mais si tu renvoies devant une assemblée qui vient de renvoyer ton gouvernement un gouvernement très similaire, t'as toutes les chances qu'il le renvoie à nouveau. D'où le fait qu'il faut ouvrir des discussions pour trouver de nouvelles majorités. Si Macron démissionne, la présidentielle suivante sera en 2029. Oui. Absolument. Lettre de Darmanin, Dati, Le Maire font une tribune contre Ciotti au Figaro. Ok. La gauche a-t-elle sa chance? Oui, la gauche a sa chance, mais ça va être difficile. Si tu regardes la structure des électorats, c'est plus le Rassemblement national qui a le vent en poupe dernièrement. La gauche résiste bien, elle est solide quand elle est unie, même si elle a des disparités en interne. Est-ce que c'est vrai cette alliance des droites? Bah oui, ce qui est vrai, c'est que Éric Ciotti, le président du groupe Les Républicains, a annoncé sa volonté de faire une alliance avec le Rassemblement national. Il a rencontré le RN et il a dit qu'une alliance était possible. Sauf que ça a fait réagir énormément de responsables du groupe, du parti Les Républicains qui ont dénoncé cette volonté d'alliance en disant qu'il n'en était pas question. À gauche, il y a un potentiel Premier ministre qui a été désigné. Non, pas encore. Apparemment, d'après ce qu'on sait des discussions entre les partis politiques, Jean-Luc Mélenchon est sorti du cadre des possibles. Raphaël Glucksmann a suggéré Laurent Berger, l'ancien président, l'ancien secrétaire général de la CFDT, qui est le premier syndicat. Des travailleurs du privé. On a entendu François Ruffin, le nom de François Ruffin qui est revenu à plusieurs reprises. Sophie Binet, j'ai pas entendu. Non, mais écrivez pas tous le nom de la personne que vous voulez voir Premier ministre, hein. Je vous parle des personnes dont on a entendu des responsables de gauche évoquer le nom comme potentiel Premier ministre. Laurent Berger avait expliqué en interview sur France Inter il y a un an que ça l'intéressait pas. Ouais, mais c'était il y a un an. Les choses peuvent changer. Qui connaît Ruffin? Oh bah Ruffin est quand même une personnalité identifiée chez les Insoumis. Alors la personne la plus identifiée chez les Insoumis, c'est Jean-Luc Mélenchon, mais c'est pas le seul. Il y a des personnalités chez les Insoumis qui sont connues, dont le visage est connu par beaucoup de Français. C'est le cas de François Ruffin. Bardella a annoncé ne pas mettre de candidat face à des députés LR dans des dizaines de circonscriptions. Ouais, je sais. Alors, faut encore vérifier que les députés LR en question sont d'accord.
Quelle est la légitimité de Ruffin à essayer de chapeauter une alliance après avoir rapidement quitté la NUPES? Il n'a jamais quitté la NUPES, Ruffin. Macron peut-il s'auto-nommer Premier ministre? Non. Bien essayé. Attends, je comprends pas. Si Macron démissionne, les prochaines élections présidentielles, c'est 2029. Oui. C'est pas le président du Sénat qui assure l'intérim jusqu'en 2027? Ah non, 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 non. L'intérim du président du Sénat en cas de démission du président de la République, ça dure que quelques semaines, hein. C'est très rapide. C'est le temps qu'on fasse une nouvelle élection présidentielle. Genre 1 mois et demi, 2 mois, pas plus. Ah non, 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 non. Faut pas se faire des fantasmes sur l'intérim du président du Sénat. Hein. Le président du Sénat qui assure l'intérim de la présidence de la République, il fait que dalle. Il n'a pas de majorité, il n'a pas de légitimité, il n'a pas de programme politique à appliquer. On n'a pas le temps, il mène pas de réforme, il lance pas de chantier, il ouvre pas des discussions. Non, non. Vraiment, il signe les papiers en attendant, il fait vraiment l'intérim administratif. Depuis le Sénat d'ailleurs, il va même pas à l'Élysée, ça sert à rien. Et il organise une élection présidentielle. Et en quelques semaines, c'est plié. Et il y a beaucoup de fantasmes, je sais, sur Gérard Larcher, etc. Non, 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 mais l'intérim de la présidence de la République, c'est nullissime. C'est vraiment de la merde. C'est pas un pouvoir. C'est plus une charge de merde que t'es obligé de te coltiner. Le Sénat est intouchable, on ne peut pas le dissoudre. Non, le Sénat est effectivement protégé des soubresauts politiques de l'Élysée. On ne peut pas dissoudre le Sénat. Pourquoi est-il envisagé que le président démissionne? Est-ce que c'est un scénario probable? Oui, c'est probable qu'Emmanuel Macron démissionne si le Rassemblement national remporte les élections législatives. C'est possible qu'Emmanuel Macron lise ses résultats hypothétiques comme un désaveu de sa politique et que donc il remette sa démission. Mais c'est pas sûr. Il a dit qu'il ne le ferait pas. Ben c'est normal qu'il dise qu'il ne le fera pas. C'est normal qu'il dise qu'il ne le fera pas parce que s'il met sa démission dans la balance, c'est une incitation très forte aux électeurs qui n'aiment pas Emmanuel Macron à voter RN. Si Emmanuel Macron annonce avant les élections qu'il démissionnera en cas de défaite, bah, y a plein d'opposants à Macron qui vont se dépêcher d'aller voter. Parce qu'en plus, il y a la martingale de la démission de Macron. Donc ils seront très contents de voter RN. Mais pourquoi démissionner? Parce que la légitimité et la capacité à agir du président de la République est issue du suffrage universel direct et du vote. Si les électeurs te désavouent, c'est normal que tu te casses. Comme l'avait fait le général de Gaulle. Très précisément. Il a perdu un référendum, il a dit aux Français, bon bah d'accord, j'ai compris. Vous voulez plus de moi, m'en vais. Chirac est resté. C'est vrai que Chirac est resté en 2005. Chirac refusait de faire un référendum plébiscitaire. En 97? Ah non, 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 je pensais au référendum de. Parce que De Gaulle a démissionné après un référendum. Après des législatives. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mitterrand aussi n'a pas démissionné. En 86. Alors qu'il s'est pris une tôle. Le Premier ministre sera-t-il nécessairement un député? Non. Jean-Pierre Raffarin, quand il a été nommé Premier ministre, il n'était pas député, il était sénateur. Un Premier ministre n'est pas nécessairement un député, en revanche, un Premier ministre a besoin d'avoir une majorité de députés avec lui. Jean Castex non plus, vous avez raison. Jean Castex non plus. Il n'était pas, député, c'est vrai. Mélenchon voulait être Premier ministre sans se présenter aux législatives en 2022. Oui, c'est vrai, t'as raison. Jean-Luc Mélenchon avait proposé de devenir Premier ministre si jamais, si d'aventure la NUPES remportait les élections législatives de 2022, alors qu'il n'était même pas candidat. Le président de la République remet sa démission à qui? Au Conseil constitutionnel, je suppose? Dominique de Villepin n'a jamais été élu. C'est vrai, Dominique de Villepin, oui, il était Premier ministre aussi, il n'a jamais été élu. C'est vrai, c'est vrai. Il était secrétaire général adjoint de l'Élysée. Secrétaire général de l'Élysée, Villepin. Est-ce qu'un député européen peut devenir ministre? Oui, absolument. Est-ce que c'est possible de dissoudre plusieurs fois de suite? Oui, mais tu dois laisser passer un an. Entre deux dissolutions. Du coup, si Macron démissionne, il sera au Conseil constitutionnel par défaut. Oui. Est-ce que les députés en passe d'être élus le seront pendant un mandat de 5 ans standard? Auquel cas, ça décalerait le temps politique présidentiel et législatif. Oui, mais le président de la République qui sera élu en 2027 aura tout intérêt à dissoudre l'Assemblée nationale dès son élection pour demander aux électeurs de lui confier une majorité. Est-ce qu'il y a eu un référendum pour la 5ème République? Ouais, en 58, ouais. Ouais. Les Français ont largement plébiscité la Ve République, proposée par De Gaulle. Comment ils sont élus les sénateurs? Ils sont élus par les grands électeurs. Les grands électeurs, ce sont des élus locaux. Essentiellement des maires, conseillers départementaux, conseillers régionaux. Mais c'est la plupart, l'écrasante majorité, ce sont des maires de petites communes qui votent donc pour leurs sénateurs. Après, ça dépend des départements. Il y a des départements où l'élection est à la proportionnelle et des départements où l'élection est au scrutin majoritaire. Ça dépend de la quantité de population dans les départements. Est-ce que tu vas streamer l'intervention de Macron demain? Alors oui, sauf que apparemment Macron fait son intervention à 11h. Et moi à 11h j'ai la réunion de rédaction de Baxit. Donc je vous streamerai ça en décalé. Voilà. Tu stream à quelle heure? Midi et demi, 13h. Ça revient Baxit? Bah, le problème c'est que... Enfin le problème, vous allez voir. Normalement, l'émission de ce jeudi, l'émission donc qui suit les élections européennes, c'était censé être la dernière émission de la saison. Parce qu'on a fait le nombre d'émissions qu'on avait l'argent pour faire. Et on avait tout calculé pour que ça rentre en disant « Vas-y, on fait une dernière émission après les européennes, comme ça on conclut la saison sur les résultats des européennes, etc. » Et dimanche soir, quand Macron a annoncé une dissolution, bah, du coup, ça a créé un nouvel espace politique énorme qui va durer un mois, là, jusqu'au 7 juillet, en gros, où il y a des élections législatives avec le risque d'arriver au pouvoir du Rassemblement national, etc. Donc nous, ce qu'on a très envie de faire, c'est de faire deux émissions supplémentaires de Backseat pour couvrir cette séquence. Donc des émissions qui seront à la fin du mois de juin, quoi, pour couvrir cette séquence des élections législatives. Le problème, c'est que pour ça, on a besoin de 30 000 euros. De 30 000 euros de plus que l'argent qu'on a déjà. Donc, si vous voulez voir ces émissions, je vous invite à faire des dons, à participer, à vous abonner sur KissKissBankBank, vous avez le lien dans le chat, à participer au financement de l'émission Backseat. Comme ça nous permettra de nous offrir collectivement deux émissions de plus que prévu pour couvrir la période, des élections législatives. Quand j'ai dit ça hier, vous avez été nombreuses et nombreux à faire des dons. Je vous en remercie du fond du cœur. Ça nous a montré qu'a priori, on peut y arriver. Si vous continuez à vous mobiliser et à soutenir Backseat et à participer au financement, on peut y arriver. Donc voilà. Merci à vous. Merci pour votre mobilisation. Merci pour votre soutien pour l'émission. Ça fait super plaisir. On serait très heureux de pouvoir vous faire des émissions supplémentaires. Vous êtes 11 000 sur mon stream là. Si vous donnez tous 3 euros, c'est réglé. On aura deux émissions supplémentaires et c'est parfait. Les places pour jeudi sont toutes parties. Ouais, on est full. On est full pour jeudi. On est full. Est-ce que les subs marchent ou pas? Non, c'est différent. La comptabilité de l'émission et la comptabilité de ma chaîne et de moi-même sont séparées. Donc les subs, ça me soutient moi. Et je vous en remercie du fond du cœur, ça me permet de bouffer. Les abonnements que vous prenez pour Backseat permettent de financer Backseat. Peux-tu nous expliquer pourquoi ça coûte aussi cher? Parce qu'on paye des salaires. Parce qu'on paye des salaires. Parce qu'il y a des gens qui travaillent sur cette émission, il y a plus d'une quinzaine de personnes qui sont mobilisées par émission, même plus d'une vingtaine, entre les équipes techniques et les équipes éditoriales. Les personnes que vous voyez devant la caméra et les personnes que vous ne voyez pas derrière la caméra qui sont nombreux aussi. Et crois-moi, 15 000 euros pour faire une émission en plateau, en public, de 2 h 30 en direct, c'est pas cher. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas cher. Vous avez cassé KissKissBankBank, c'est ça? Merde. Ah, c'est bien ma veine, ça. Vas-y, il y a des gens qui étaient prêts à faire un don, là, qui étaient prêts à soutenir. Et ils vont pas pouvoir parce que KissKissBankBank, c'est niqué. J'allais donner 100 000 euros. C'est court. Je serai de retour quand le KissKissBankBank sera fonctionnel, je le promets. Merci du fond du cœur. Merci pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner à Backseat. N'hésitez pas à rejoindre le club Backseat. Est-ce que je l'ai ma carte Backseat sur moi? Normalement, elle est dans mon portefeuille, hein. Portefeuille, mon portefeuille. Hop, la carte Backseat. Club Backseat. Je vous mens pas. Hein. Vous voyez pas? Jean Massier, adhérent numéro 1 du Club Backseat. Ça, c'est ma carte vitale, mais bon, bref. On la reçoit en combien de temps la carte? Ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps. Monte ta carte bancaire aussi, s'il te plaît. Ouais, je te donnais trois petits numéros qui est écrit derrière, c'est ça? J'ai toujours pas la mienne de carte. La carte Backseat? Ah, merde. Vous pouvez envoyer un mail à public Backseat.
Ou sur le mail de support de KissKissBankBank. KissKissBankBank est down à cause de gens terribles. Je suis désolé, c'est de ma faute. C'est complètement de ma faute. Non, et puis je redis, excusez-moi, après j'arrête, hein, promis. Je redis, n'hésitez pas à soutenir Backseat en finançant l'émission, en prenant un abonnement mensuel, en donnant de l'argent tous les mois à Backseat, parce que c'est ça qui nous permettra de refaire des émissions l'année prochaine. Plus on a d'argent qui tombe tous les mois, plus on peut savoir à l'avance le nombre d'émissions qu'on va faire dans l'année. Après, on va chercher des partenaires, on va chercher des annonceurs, etc., pour compléter le budget, parce que c'est nécessaire. Mais plus vous êtes nombreux, plus l'émission est indépendante et plus on peut surtout prévoir à l'avenir. Bref. La droite implose, les dons explosent. Pas mal. Est-ce que Brexit est d'intérêt général? Ça, j'en sais rien, c'est pas à moi de le dire. J'essaye. On essaye avec l'équipe, avec mes coproducteurs, de vous proposer la meilleure émission possible. Merci Oxygène Beta pour les 5 subs. Les 23 000 euros, c'est pour une seule émission? Non, c'est une émission à produire. Ça coûte 15 000 euros, taxes comprises. Si on en fait plein dans l'année. Voilà. C'est parce qu'on fait plusieurs émissions dans l'année qu'on a réussi à négocier des tarifs de location, etc., moins forts. Mais donc réparti sur l'année, ça fait 15 000 euros par émission. Est-ce que le plus triste dans tout ça, c'est qu'il va y avoir zéro débat de fond et juste des manœuvres politiques pendant 3 semaines? Mais les manœuvres politiques sont des débats de fond. Les manœuvres politiques, c'est du fond. Ce que propose Éric Ciotti aujourd'hui, c'est une clarification de la doctrine de son parti, les Républicains. Bonsoir, le Sénat peut-il bloquer l'action d'un gouvernement RN? Bonsoir, la réponse est non. Le Sénat ne peut pas être une force de blocage. Le Sénat n'a pas la possibilité de bloquer la volonté de l'Assemblée nationale. Ils peuvent négocier, ils peuvent proposer, ils peuvent amender, ils peuvent suggérer, ils peuvent faire beaucoup de choses, mais ils ne peuvent pas bloquer. Si au bout du bout du bout, c'est la volonté de l'Assemblée nationale, le Sénat n'a pas de moyen de blocage. Le Sénat, par exemple, ne peut pas voter de motion de censure. Même sur les collectivités territoriales. Alors, sur certains types de lois, notamment les lois qui touchent à l'organisation territoriale, là, le Sénat doit effectivement voter conforme, comme on dit. Donc oui, il y a quelques domaines, il y a quelques cas dans lesquels le Sénat peut bloquer. Mais c'est que dalle, hein. Je vous dis tout de suite, le Sénat ne peut pas être une force de blocage pour empêcher le gouvernement, etc. À l'époque où la gauche est arrivée au pouvoir en 81, le Sénat était à droite, bien à droite. Ils n'ont rien pu faire pour empêcher François Mitterrand de diriger le pays. Les socialistes étaient au pouvoir. Le Sénat, ça les débectait, ils n'étaient pas contents, mais ils pouvaient rien faire. Il y a la réforme de la Constitution aussi. C'est vrai, vous avez raison, le Sénat doit forcément voter conforme pour une réforme de la Constitution. Et ça, c'est important. Le Sénat, on ne peut pas tordre le bras au Sénat. Le Sénat doit être d'accord pour réformer la Constitution. Le Sénat est constitué par qui? Constitué par les sénateurs qui sont élus par les élus locaux. À quoi sert le Sénat? Eh bien, il sert, comme je le disais, à compléter, amender, suggérer, modifier, adapter les lois. Est-ce que le Sénat peut être dissous? Le Sénat ne peut pas être dissous par le président de la République. En échange de quoi? Le Sénat ne peut pas renvoyer le gouvernement. C'est un contre-pouvoir aussi. Oui, c'est un contre-pouvoir. Une force d'équilibre. Enfin, pour reprendre les termes de Gérard Larcher, qui sont assez justes, c'est une force d'équilibre.
Est-ce qu'il y a une possibilité d'une alliance LR-Renaissance? Ça fait 2 ans que Renaissance essaye, ça fait 2 ans que LR dit non. Force est de constater que non. Et si on en croit Éric Ciotti, ce serait plutôt du côté du Rassemblement National qu'il se tourne. Qui représentera la France au Conseil européen? C'est une bonne question, tiens. Est-ce que c'est le chef de l'État ou est-ce que c'est le chef du gouvernement? Est-ce que Ciotti est suivi par le reste des LR? Si l'on en croit les prises de parole des élus cet après-midi, non. Après, il y a un sondage qui montre que les adhérents LR soutiennent à 50%, donc ils sont très divisés. Le parti va se déchirer, hein, clairement. Chirac et Jospin y allaient ensemble, mais ils étaient polis. J'étais en train d'y penser, Fulanor, t'as raison. J'étais en train de penser à ça, à Chirac et Jospin qui y allaient ensemble au Conseil européen. Est-il possible qu'un parti soit exclu des élections? Un parti, non. Des candidats, c'est possible s'ils ne remplissent pas les conditions prévues par le code électoral pour se présenter. Mais c'est rarissime, hein. Pourquoi tu penses que Macron a repoussé la conf de presse? Parce qu'il voulait attendre de voir mon stream pour savoir ce que j'avais à dire. Non, je déconne. Il voulait voir Ciotti. Il voulait attendre les développements du côté des Républicains. Il est 22h les amis, hein. Il est 22h, je vais vous laisser. Je commence à fatiguer. J'ai toujours la crève en plus, ça me rend ouf. Me saoule. Je reviens demain, en tout début d'après-midi, pour commenter en différé donc la conférence de presse d'Emmanuel Macron. Merci à vous d'avoir été là, c'était cool. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve demain. À demain. Salut tout le monde.